Salut Charline.
Je suis contente, on reçoit un Belge qui va nous parler du djihad.
On reçoit Salah Abdeslam.
Mais enfin, t'es con,
bah, quoi. Lui, t'es con, il refuse de parler, ça fera un très mauvais invité.
Mais non, enfin, c'est Ismaël Saïdi, il a écrit une pièce de théâtre sur le djihad.
Oh, super. Ah, en sujet 1, il y a un livre sur le retour des djihadistes en France.
Ah, bah voilà, bah là, il aura un avis.
Ah, c'est pas sûr, ça.
Bah, c'est vrai, si ça tombe, Fedo, il a jamais trompé sa femme.
Oui, mais il avait un avis sur la fidélité.
Ah, oui, c'est vrai.
Et il y a un sujet sur l'IVG aussi.
Ah, bah ça, c'est pas sûr qu'il ait un avis.
Bah, on peut demander à la maman de Guillaume alors.
Bah, elle a pas avorté, ma mère.
Bah, justement, mais comme elle le regrette, elle pourrait nous en parler.
Attends, et ta mère aussi, elle aurait dû avorter à ce moment-là.
Elle l'a fait, ouais, mon frère jumeau, ils ont dû choisir. Bon, ils ont gardé le plus gros.
Oh, la tête qu'il devait avoir, l'autre.
Bon, vous dites n'importe quoi. Alors, pardon. Sujet 3.
Il y a un truc marrant dans l'IB sur les expressions érotiques cachées.
Oh, alors, moi, je les repère jamais.
Ah, c'est rigolo. Oui, je sais, comme par exemple, fiche-moi le poireau dans les tuyaux à flûte.
Oui, ça va pas bien, Guillaume.
Bah, c'est pas une expression.
Ah, bah, c'est surtout qu'il n'y a pas de sens caché.
Oui, bah, surtout, c'est extrêmement vulgaire. Ah, pardon, hein. Alors, moi, je vais vous remettre les pendules à l'heure, là, tout de suite.
Ah, ça, par contre.
Quoi,
bah, c'est dans l'article.
Ah, bon,
en fait, mettre les pendules, c'est conduire l'aiguille au milieu du cadran. Et donc, forniquer.
Forniquer son horloge.
Oh, Charline, elle utilise des expressions dégueulasses.
Ah, là, c'est bon, hein. Vous n'avez pas rué dans les brancards comme ça.
Ça aussi, c'est dans l'article.
Non, écoute, arrête, s'il te plaît, parce qu'en faisant ça, franchement, tu jettes le bébé avec l'eau du bain. Hein.
Ça aussi, c'est une expression.
On prend ce sujet.
Super.
Mais pourquoi il veut mettre un poireau dans un étui à flûte?
Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui découpe l'actualité comme un rôti et voici les deux invités qui vont déguster. Ismaël Saïdi est l'auteur de la pièce « Djihad ».
Bon choix.
Accrochez vos ceintures. On va parler du retour en France des jeunes qui sont partis en Syrie. Puis on parlera de l'avis tellement pertinent des évêques de France sur l'IVG. Et pour cheminer jusqu'à 18h, on embarquera Olivia Ruiz pour parler de l'Europe molle. Vous savez, celle qui est coincée entre Trump et Poutine. Et puis on évoquera les grèves des chauffeurs de VTC dont les lendemains déchantent. Bonjour Alex Vizorek.
Bonjour Charlotte Vanhoenacker.
Alors qui vient en renfort caisse dans cette émission aujourd'hui?
J'ai encore eu le choix que... entre des gens brillants. Pablo Mira sera là pour une révolution sur... Ah oui, mais une révolution conservatrice. Il y aura Guillaume Meurice, comme tous les jours, évidemment. Est-ce que tout le monde est bien informé? Il s'est posé cette question. Si c'est lui qui s'en occupe, on est rassuré. Et André Manoukian nous parlera de l'album d'Olivia Ruiz. En fin d'émission, Frédéric Fromet chantera sa chanson. Le thème, les petits Français sont nuls en maths.
Oh, allez, viens, on t'emmène.
Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
On se bat depuis 3 ans pour dire que les Belges ne sont pas prétentieux. Vous êtes la seule qui répond pas à la question et dit je suis super beau.
Ouais, pour une fois que je peux me permettre, ça va. Elle a réussi à dire Molenbeek, Escarbeck en une fois sans dire bon en même temps les Belges, mais bon c'est pas grave, on va pas le dire.
Nous sommes donc 3 dangereux terroristes autour de cette table puisque nous sommes Belges.
Hein. Vous l'avez pas présenté, qui c'est?
Eh oui, c'est Ismaël Saïdi qui est avec nous, l'auteur de Djihad. Djihad, une pièce d'utilité publique d'ailleurs. Alex, racontez-nous un petit peu.
Mais l'histoire, le phénomène Djihad, parce qu'en Belgique. Ça démarre dans un tout petit théâtre avec 2 potes, vous créez cette pièce. Vous la titrez Djihad.
La bonne idée. Départ, ouais. Le sens du marketing.
Mais d'une certaine manière, oui, ça intrigue, ça fait débat. De nombreuses écoles viennent vous voir, de nombreuses personnes viennent vous voir. Un moment, vous ouvrez, vous décloisonnez le public. Et puis, vous passez sur une des grandes chaînes nationales, la pièce de théâtre. C'est assez rare chez nous. Racontez-nous un peu cette histoire et puis le départ de ça.
Encore maintenant, j'ai un peu de mal à la raconter parce qu'au départ, c'était une pièce que j'ai écrite en coup de sang comme ça, rapidement, en me disant on va tenir 5 soirs et puis c'est fini. C'est
on
bon.
Est à quelle période
parce qu'on on est juillet. Je l'ai écrite en juillet-août 2014 et elle a été créée le 26 décembre 2014. Donc entre septembre et décembre, on a essayé de faire de la pub à personne qui en voulait, coller des affiches dans le métro, on nous a chassé à coup de fouet. Et du coup, on avait une toute petite salle au fin fond de Bruxelles, dans une commune qui s'appelle Schaerbeek justement. Et on s'est dit si on tient 5 soirs avec mes comparses là sur scène et qu'on se fait pas tuer à la fin du spectacle, ça peut être cool.
Votre premier public, il vient pourquoi?
Il vient parce qu'il était intrigué.
Pour avoir des conseils sur le djihad.
Ouais, c'est ça, comme la Belgique est quand même fournisseur officiel de la Syrie, on donnait des conseils aux gens, quoi. Ouais. Mais en fait, non, les gens étaient intrigués en se disant, c'est quoi ce truc? En plus, il paraît que c'est une comédie. Il est complètement fou, le mec. On veut le voir se faire tuer en live. Ça peut être bien.
Oui, que font les héros, alors, justement?
Les héros, ils partent de Schaerbeek, du parc Josaphat, d'ailleurs. Ils partent de Schaerbeek et ils partent en Syrie. Et finalement, la pièce, la Syrie ou le djihad, c'est vraiment qu'une excuse. On suit le parcours de ces mecs et on essaie de comprendre avec eux pourquoi ils sont partis et quelles sont les raisons. Alors moi, je parle plus de rupture identitaire dans le spectacle. C'est très drôle. Alors on rit pendant une heure.
Oui, c'est une comédie.
Ouais, on rit pendant une heure. Et bon, la fin est quand même beaucoup plus trash et tragique. Et effectivement, voilà, depuis ce jour, depuis le 26 décembre 2014, ça a plus jamais arrêté. C'était avant les attentats. Mmh. Puis on n'a plus jamais arrêté de jouer. Là, on a 210 représentations pour la troupe belge. 70 000. T'as vu, je parle français. 70 000 personnes qui l'ont vu. Et elle se joue tous les soirs au feu de la rampe à Paris. Ouais.
Est-ce que c'était déjà, dans la première version, un dessinateur?
Ouais, ça a toujours été. Il n'y a rien qui a changé. Hein. Ouais. Donc, il n'y a pas un mot qui a changé dans le texte. Il y avait un dessinateur, c'est moi qui l'ai, ouais, qui l'ai incarné. Et effectivement, le 7 janvier 2015, quand on a vu qu'ils se mettaient à tuer les dessinateurs et que nous, on n'arrête pas de balancer sur scène que le dessin, tu peux pas, que les dessinateurs iront en enfer, c'était un peu bizarre. Mais après, on a été récupéré. Moi, j'ai été suivi par la réalité tout le temps, en fait. Voilà, il y a un attentat à un moment donné dans le spectacle qui est commis par moi. Un des gars du Bataclan s'appelait Ismaël. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui nous ont récupérés.
Et d'ailleurs, c'est pas un hasard que vous ayez. On peut pas dire que vous ayez anticipé, puisque finalement, la pièce, elle arrive à cette période-ci. Ouais. Maintenant, elle tourne. Mais c'est un phénomène donc que vous aviez vu venir, ouais, qui avait mûri chez, ouais, vous depuis, ouais, longtemps pour arriver avec cette pièce djihad à une époque.
C'est ça qui est triste, c'est qu'il y a plein de gens qui sont. Enfin, des journalistes qui viennent me dire: oh là là, vous avez été visionnaire. J'avais pas du tout, j'ai été passéiste, en fait. C'est ah, oui, l'exact inverse. Moi, je raconte un truc qui s'est passé à 25 ans, quand j'avais 15 ans, du fin fond de ma commune natale.
Vous avez été tenté par le, ouais, bien sûr, par le départ bien entendu, en Afghanistan.
Bien entendu, ouais, à l'époque, il t'inscrivait dans les mosquées, là, c'était tranquillos. Le mec qui disait: allez, va au Pakistan, aidez tes frères, arrête de fumer des joints et tout. Ouais. Et donc, toi, t'es là, t'es perdu, t'as 15-16 ans, t'as plein de boutons, t'es moche. Enfin, j'ai dit que j'étais beau tout à l'heure.
Et on va en parler justement parce qu'on a choisi comme premier sujet la sortie de ce livre, Les Revenants, hein, publié avec le site Les Jours et les éditions du Seuil, qui raconte les parcours, pourquoi ces jeunes sont partis, une enquête de 4 ans. Donc, on aura l'occasion d'écouter aussi votre témoignage qui donne lieu à cette pièce donc, qui s'appelle Jihad. Musique, tout de suite.
Ba, 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 ba,
les Beach Boys, Barbara Ann. Yeah. Vous êtes sur France Inter. Merci si vous nous rejoignez.
Charline Vanhoenacker.
Que je salue.
Alex Vizorek.
C'est quoi cette histoire?
C'est...
Si tu écoutes, j'annule tout. Ah. Sur France Inter.
Ismaël Saïdi est en notre compagnie. C'est l'auteur de la pièce Jihad. Et on va aborder ce premier sujet avec vous. Justement, la France se prépare à un défi majeur qu'il aurait fait... peut-être fallu préparer plus tôt, comme souvent, hein, c'est le retour des djihadistes français. Eh bien, un livre est allé recueillir leurs témoignages. C'est un livre paru avec le site Les Jours et au Seuil également. Livre de David Thompson, dont Le Monde publie aujourd'hui Les Bonnes Feuilles, et où l'on cerne un petit peu mieux les raisons édifiantes qui ont poussé ces jeunes à partir. Attention, séquence témoignage.
Donc alors, Guillaume Dubois.
Enfin, Guillaume Dubois.
Oussama Mohamed Saddam Ben Dubois. Chevalier de l'Apocalypse. Hein. Alors oui, donc j'ai tout lu, tout reçu. Hein, partir à la plage, partir à l'aéroport, partir prendre l'avion, partir au musée et tout. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur Bagdad, il n'y a pas trop de moustiques. Parce que j'ai la peau fine, puis je suis allergique au gluten, tout ce qui est semoule, tout ça, je suis pas très fan. Hein. Parce que j'avais d'autres questions sur la literie, tout ça, parce que je suis sensible du nez aussi. D'accord, bon, on verra sur place, il n'y a pas de problème. Bon, bah, alors, bon, bah, jeudi, alors, hein, bon, bah, gros bisous. Je veux rentrer, maman.
Elie Semoun. Alors, Ismaël Saïdi, une première question, parce que vous avez été tenté à l'adolescence de partir en Afghanistan, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez vécu comme une tentation. Il y avait pour vous le « eux » et le « nous », comme ça arrive souvent et comme on peut lire dans les témoignages de ce livre, hein, les revenants. Vous croyez pas du tout à la déradicalisation et pourtant vous avez été déradicalisé grâce à la musique de Jean-Jacques Goldman. Ça paraît tout con, mais c'est vrai.
Ouais, pas que grâce à ça, mais grâce. C'est vrai. Mais la rencontre avec l'autre finalement, et puis je raconte, ça je l'ai raconté un peu dans un bouquin, mais Goldman, j'étais fan absolu, ça a pas changé d'ailleurs. Et j'écoutais. Un jour, on m'avait dit, j'allais à l'école arabe le samedi, fin fond de Bruxelles, on m'avait dit, t'écoutes un juif, tu peux pas, tu vas crever en enfer et tout. Donc moi j'étais là, je savais même pas ce que veut dire juif. Donc du coup j'étais là avec mon Walkman. Vous savez ce que c'est qu'un Walkman?
Oui, on est vieux aussi.
D'accord, ça va, parce que parfois je raconte ça aux jeunes, je passe pour un con, quoi, tu vois, donc je commence à faire des dessins et tout. Donc, et je rentrais chez moi et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Il peut pas y avoir une religion ou un dieu qui te permet d'aimer quelque chose et puis de détester juste parce qu'il est juif. Ça a été la première fracture, si tu veux, dans des certitudes. Et voilà, je me suis dit, c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à lire le Coran pour la première fois. Donc du coup, Goldman m'a fait lire le Coran, c'est un peu bizarre. De pas être content si longtemps.
Et de lire correctement le Coran, c'est une deuxième étape dans votre déradicalisation.
Déjà lire de droite à gauche, parce qu'au départ, je crois qu'il le lisait à l'envers, les autres. Mais déjà, de se rendre compte que la plupart des conneries qu'on t'a racontées sont pas dedans. Quoi, en fait.
Et oui, ce qui est une des phrases que j'ai notées de la pièce qui dit, c'est nos parents, nos familles qui détermine notre islam. Vous dites qu'il faut la choisir soi-même, peut-être.
Ouais. On est en fin de spectacle et je parle du libre arbitre. En fait, ils se rendent compte qu'ils n'ont jamais, d'abord lu ce Coran, jamais décidé d'eux-mêmes et qu'en fait, on leur a toujours dit, parce que la pièce pointe beaucoup les responsabilités des musulmans, je l'insiste, alors moi je suis musulman pratiquant, je l'assume, mais la pièce pointe ça en disant, ben, les gars, en fait, on leur a toujours dit des choses, pas aimer les juifs, dans le cas de la pièce, donc Ben et Elvis par exemple, mais Reda qui est amoureux de Valérie, à qui on dit que Valérie c'est juste pour s'amuser, que pour la vraie vie c'est une musulmane, ou mon personnage à qui on interdit de dessiner parce que le dessinateur ira en enfer. Ben, c'est des choses qui leur ont été imposées à l'intérieur et ils se rendent compte qu'en fait ils ont juste écouté ce qu'on leur a dit et qu'ils n'ont jamais eu de libre arbitre. Et donc c'est ce qu'il dit à la fin du spectacle. Ouais.
Justement, j'ai une question à ce sujet. Donc dans les bonnes feuilles de cet ouvrage, les bonnes feuilles sont parues dans Le Monde, il y a un témoignage d'un jeune qui s'appelle Zoubeïr qui est parti en Syrie, qui est revenu et qui dit, voilà, à 16 ans, j'étais dans une quête d'absolu spirituel à laquelle ne répond pas la société contemporaine. Il parle d'un sentiment de révolte, voire d'une envie de révolution, que l'Occident ne propose que de consommer, consommer, consommer et ne pense qu'à augmenter le pouvoir d'achat. Et outre toutes les horreurs qu'on peut lire dans les motivations, il y a cette motivation-là. En la lisant, je me suis dit, mais en gros, on est d'accord. Sauf que peut-être penser ça à 16 ans, c'est hyper précoce, donc ça veut dire qu'il n'est pas arrivé à cette conclusion tout seul, mais en fait, on cherche souvent la même quête de spiritualité, d'être contre la consommation.
La différence, c'est la réponse qu'on te donne. Tu sais, quand tu as 16-17 ans, que tu es complètement paumé et que tu te cherches, tout le monde vit ça. En fait, il ne faut pas être musulman pour ça. Tout le monde vit une crise existentielle. Tu n'es plus un gosse, tu n'es pas encore un adulte, donc tu vis ça. Après, ça va dépendre de la réponse qu'on va te donner. Et à ce moment-là, on te donne, ce mec sûrement, te donne une réponse, bah, effectivement, voilà, capitalisme à outrance, individualisme, et tous les ados en général pensent à ça, sauf que lui, on lui donne une réponse toute faite. La réponse toute faite, c'est, ben, il y a eux et nous, en fait, ils t'aiment pas, c'est pour ça. Mais je peux te donner une réponse à ça. Alors, au départ, on y croit. Maintenant, ils savent très bien ce qu'ils vont aller faire en Syrie. Mais au départ, voilà, chevalier servant, et puis nos frères sont en train de mourir là-bas, et puis ils tuent nos frères, et puis on crée le fossé entre toi et moi, en fait. On le crée dès le départ. Et ça n'a pas beaucoup changé. Et le problème, c'est que, pour mon gros problème aujourd'hui, c'est que à quel moment ça te pose un problème, la radicalisation? Est-ce que c'est quand elle devient violente ou c'est quand dès le départ on a commencé à créer le fossé? Moi, mon problème, il est là. Dès le départ, on a créé le fossé et la réponse qu'on a donnée à ces gens, à ces jeunes, à moi, à plein de monde, c'était ça en fait. C'est, ben, j'ai une réponse toute faite pour toi, tiens.
Oui, voilà, le prêt-à-penser.
Exactement.
De cette manière. Ismaël Saïdi est avec nous. C'est l'heure de passer à l'édito de Pablo Mira. Alors, Pablo, si ça ne tenait qu'à moi, vous seriez là tous les jours. Mais comme je vous déteste, je vous déteste, on va rester sur une fois par semaine. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez, je crois, de cette vague conservatrice qui déferle sur l'Occident depuis quelque temps.
Alors, merci Charline de me passer la parole. Alors, pour commencer cet édito, moi ce que j'aimerais, c'est d'abord rendre hommage à la lettre F, hein, qu'on va entendre beaucoup ces prochains mois. F comme France, F comme François Fillon, F comme... Putain, ce qu'on va vous mettre dans la gueule, les gauchos, en 2017. Alors, Attention, attention, hein, pas de cliché, évidemment, ça va faire polémique, je le sens. J'ai rien contre les gens de gauche, évidemment, j'ai beaucoup d'amis qui ne se lavent pas. J'en ai même quelques-uns qui sont allés jusqu'à acheter le dernier album de Benabar. Vous voyez, je suis plutôt ouvert. C'est juste que ça fait 5 ans, Charline, hein, que les gauchos nous traitent sans arrêt de racistes. Il y en a marre. Hein. On ose dire qu'il faut renforcer les contrôles aux frontières, bam, raciste. On ose dire qu'il faut lutter contre l'intégrisme religieux, bam, raciste. On ose dire qu'on est raciste, bam, raciste. Alors, peut-être que vous ne le saviez pas, Charline, mais jusqu'à la victoire de Fillon, à cause des bobos gauchistes, hein, comme vous, comme Guillaume, moi, j'étais obligé de venir à France Inter avec un sarouel, voilà, et de prendre du quinoa à la cantine. Eh bien ça, je vous le dis, c'est fini. Fini. Hein, désormais, je rentre dans les locaux direct en costard, et pour déjeuner, eh bien c'est le petit Tupperware rempli de magrettes dauphin. Alors, j'ai parlé de victoire de Fillon, mais j'aurais dû dire raz-de-marée, évidemment, parce que c'est près de 2 900 000 voix sur 48 millions, soit l'écrasante majorité d'une petite minorité de Français. Et c'est pas étonnant quand on y réfléchit, hein, avec un petit peu de décryptage, les électeurs français, ils en ont marre de ces élites. Hein. Quand ils votent massivement Fillon, eh bien leur message, c'est quoi, Alex ? Eh bien, c'est on veut un candidat qui nous ressemble, hein, un candidat qui angoisse, parce que lui aussi, avec seulement 13 287 euros par mois, il sait pas comment il va boucler ses fins de décennie. La droite, elle doit en finir avec ses petits complexes de pacotille. Et François Fillon, c'est le remède contre les complexes. C'est un peu, voilà, la crème anti-cellulite à étaler sur les fesses de la majorité silencieuse. Et oui, parce que si Fillon est élu, hein, s'il est élu, eh ben c'est la fin de la droite des compromis. Hein. Fillon, lui, courbera pas les chines devant quelques millions de Français mécontents. Non, il ne le fera que devant une seule chose, le biscuit que lui tend Vladimir Poutine. Alors, je vous l'assure, on l'a vu, on assiste à une véritable révolution conservatrice, hein, même si évidemment c'est vrai, révolution conservatrice, ça fait un petit peu oxymore, hein, comme par exemple une comédie française drôle, hein, ou le talentueux Harlem Désir. Fillon, ce qu'il y a de bien avec Fillon, je vais vous le dire, c'est que c'est un conservatisme intelligent, un peu à l'américaine, hein, sur certains points, parce que eux, par exemple, ils ont compris que quand on va trop vite, eh bien on fonce droit dans le mur anti-migrant. Alors aujourd'hui, la mission des gens de droite, après cette victoire de Fillon, eh bien c'est de montrer l'exemple, hein, de tendre la main au peuple de gauche et délicatement, hein, avec bienveillance, d'abaisser tous leurs doigts sauf le majeur, évidemment. Alors, pour conclure, j'espère que cette leçon de la droite qui s'assume, eh bien, elle inspirera les électeurs d'autres bords politiques. Peu importe, hein, peu importe vos convictions, assumez-les. Hein, et on peut être en désaccord, hein, n'est-ce pas, Charline ? On peut être en désaccord du moment qu'on se dit les choses avec respect. Hein, alors, parce que oui, sentez-vous libre d'être de droite. Hein, sentez-vous libre d'être du centre. Et oui, comme tous mes collègues ici, sentez-vous libre d'être des connards.
Pablo Mira, un édito en partenariat avec Vanneurs Actuels sur France Inter.
C'est un échange culturel qu'on essaie de mettre en place.
Nous ouvrons la porte à toutes les sensibilités, nous les bien-pensants. Vous êtes sur France Inter, oui. On va aborder le deuxième sujet de cette émission avec notre invité Ismaël Saïdi, qui est un gros sujet de fond, donc on aimerait vraiment avoir votre avis là-dessus, parce qu'on est en plein débat dans le bureau depuis ce matin. Il existe au moins 200 expressions courantes qui ont un caractère érotique caché, c'est-à-dire dans leur sens littéral. Par exemple, sans déconner. Mm-hmm. Combien de fois on ne le dit pas ? Eh ben c'est sans sortir du con. Alors, maintenant, pour savoir ce que signifie le con, si vous ne savez pas, rendez-vous, rendez-vous sur Internet, j'allais dire.
Alors, pour qu'il ne puisse plus surfer sur des sites équivoques, il faut exercer un contrôle parental.
D'accord.
Et pour ça, tu dresses une liste de mots interdits sur l'ordinateur. Comme ça, si Lucas tape un de ces mots, ça bloque.
D'accord.
Alors, on y va pour la liste. Je t'écoute.
Foufoune.
Foufoune, très bien.
Gland.
Gland, tu le notes. Bon, chatte, bien sûr. Hein.
Ah bah, chatte, chat. Bien sûr, ouais, non. Dard. Braquemar, bistouquette.
L'abricot, ouais. La grotte, la salle des fêtes.
La salle des fêtes, la salle des fêtes.
Bah oui, la salle des fêtes. Bah oui, c'est l'endroit chez vous où on s'amuse le plus.
Valérie Bonneton, Guillaume de Tonquédec, dans le fait passif et pas ça du jour. On en passe tous les jours, on adore. Alors, est-ce que vous auriez l'esprit mal tourné, vous, Ismaël Saïdi ?
Je pense, ouais, mais déjà, je vais te dire à mes gosses d'arrêter de me répéter que je dois arrêter de déconner, parce que j'ai l'impression que
vous avez vu ça.
Je vais devoir leur expliquer.
Ça veut dire rester dans le con quand...
Ouais. Et ça veut dire quoi, un connard, alors, finalement ? C'est ce que je me demande.
Bah, c'est très désobligeant, en tout cas, pour l'organe génital.
Mais non, c'est mais vrai. Ça veut dire quoi ? Si le con, ça veut dire... alors, je reprends vos mots à vous, la chatte.
Ça
veut dire quoi, un connard, alors ?
Ouais, il y a un débat, on se disait au bureau tout à l'heure, il y aura jamais de débat.
Non, mais on m'a dit, tu vas sur France Inter, c'est un débat de fond.
Évidemment, on est là pour changer les choses.
C'est quoi un connard ?
Alors,
c'est quelqu'un qui peut nous le dire.
Mais on peut peut-être le retrouver dans ces 200 drôles d'expressions érotiques que l'on utilise tous les jours sans le savoir, d'Agnès Pierron. C'est paru chez... enfin, l'éditeur, c'est Le Robert, en tout cas. Donc là, moi j'ai pas la réponse parce que on a juste lu les feuilles qu'il y avait dans le livre.
C'est un dérivé, hein, apparemment, d'après internet, c'est un dérivé.
Parce que faire de la lèche, c'est clair qu'on savait plus ou moins de quoi on parlait. Faut arrêter quand même, je veux dire.
Par contre, ma sœur, elle bat le beurre.
Ah ben celle-là, je la dirai plus. Sincèrement, parce que là, j'ai un peu plus de respect pour ma sœur.
Ça veut dire qu'elle s'envoie en l'air, barater, c'est aussi coïter, et je vous passe la crème.
Ah ben justement, celle-là, elle est pas mal aussi.
Oui, parce que c'est au propre comme au figuré.
Exactement.
Mais par exemple, ruer dans les brancards, celle-là, quand même, j'aurais jamais cru.
Ah, ça, on s'y attendait pas. Hein. Alors, je sais plus ce que ça veut dire d'ailleurs.
Ça veut dire.
Il y a un truc de jambes écartées. Alors, passons à autre chose parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent.
Être débordé, ça aussi. Être débordé, c'est horrible.
Trop, vous voyez. C'est trop.
Le sketch de fin d'émission, hein, qui lui est beaucoup moins vulgaire que cette thématique que nous venons d'aborder.
Thématique de droite d'ailleurs.
Ça, c'est pas mal. Tous les grands acteurs de Paris rêvent d'un succès et donc viennent sonner à votre porte pour avoir une pièce forte comme la vôtre. On s'y rend tout de suite, vous les accueillez avec beaucoup de gentillesse.
Monsieur Sally ?
Monsieur Huster ?
Appelez-moi Alceste. Rodrigue, Cyrano ou Francis ?
Francis.
Enchanté de vous rencontrer, j'ai vu Djihad, c'était formidable.
C'est vraiment très gentil, hein, merci.
Et je me suis dit, quelle audace de s'attaquer à un thème si politiquement incorrect. J'avais plus vu ça depuis Tartuffe, tiens.
Je suis flatté. Hein,
et je me suis dit, Francis, il faut absolument que tu lui soumettes ton idée de pièce avant-gardiste.
Je vous écoute.
Vous allez voir, c'est très audacieux. Ça s'appellerait Cancer et MST.
Alors, c'est déjà foiré au niveau titre, hein, franchement.
Attendez, le twist est formidable. Aux trois quarts de la pièce, on se rend compte qu'en fait, le personnage principal ne souffre pas d'un cancer des testicules, mais de la chlamydia.
Non, mais ça marchera jamais, hein.
Ismaël, quel plaisir cette rencontre pour vous. J'ai vu Djihad, c'est énorme, entre Valérie, Barthes, La Fontaine.
C'est très gentil.
Ça doit plaire aux gauchos, ils doivent trouver ça si politiquement incorrect.
Bon, enfin, y a tout dans ma salle. Hein,
donc... Ah non, le théâtre, c'est la gauche qui le fait, c'est la droite qui y va.
C'est beau.
Ouais, c'est de moi. Et je me suis dit, Fabrice, tu dois absolument lui soumettre ton idée de pièce qui va faire chialer de génie les bobos de Libération.
J'imagine que je vais être flatté là ou...
Mais vous l'êtes, hein. Vous allez voir, c'est d'une audace, le titre pédophilie.
Pardon.
Pédophilie, c'est le titre.
C'est déjà foiré au niveau de titre, en plus je suis belge donc je suis pas sûr que ça...
Que ce soit assez audacieux, hein. Mais oui Fabrice, pourquoi pas, pédophilie et inceste.
Mais oui, pédophilie, inceste, c'est énorme. Et on demande à Jean-Luc Lahaye de me donner la réplique.
Mais enfin ça marchera jamais.
Salut, c'est Patrick. Patrick Bruel, salut Ismaël, t'as pas changé ? Qu'est-ce que tu deviens ? Et toi, Fabrice ? Et toi, Francis ? J'ai vu Djihad, c'était magnifique, putain.
Mais merci, c'est gentil.
Ah non, mais je me suis dit direct, Patrick, tu dois absolument lui soumettre ton idée de pièce qui va reléguer le prénom au rang de gentil vaudeville, quoi.
Non, mais attends, laissez-moi deviner, c'est très audacieux, c'est ça ?
Ouais, comment vous savez ?
Laisse tomber, vous avez le titre ?
Ouais, Copé président.
Pardon ? C'est déjà fort comme titre, ça. Hein.
C'est énorme !
Ça peut marcher si on titre Copé président et psoriasis.
Ça marchera jamais !
Pas un jour ne se passe sans qu'il y ait un moment Meurice.
Mais oui.
C'est maintenant.
C'est maintenant. Les Français sont-ils bien informés ? Guillaume répond.
C'est la question du jour dans un pays où, je le rappelle, Bernard de la Villardière a une carte de presse. Hein, donc ça me permet d'avoir quelques doutes sur la question. Alors nous, dans notre émission, on fait le max pour informer la population. On a le journal de 17h17. Donc vous savez tout des gens qui, ivres virgule, se retrouvent avec un fer à friser coincé dans le rectum. En écoutant les chroniques de Samir Bouadi, vous connaissez les effets effets du mélange whisky gitane maïs sur les cordes vocales. Bref, vous êtes informés. Voilà, vous êtes informés. Il y a un problème dans ce pays quand même, c'est que tout le monde ne nous écoute pas, aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc ça donne un pays qui souffre de troubles de la perception. Par exemple, les citoyens français que j'ai croisés ce matin et à qui j'ai posé des questions.
À votre avis, combien de personnes touchent le RSA en France ?
Je dirais 25%.
25% de Français touchent le RSA ?
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a un Français sur quatre qui touche le RSA ?
C'est pas impossible, oui.
Alors, c'est pas impossible, mais non. Hein. Sinon, Laurent Wauquiez, il fait une syncope directe et on n'aurait même pas pu lui porter assistance puisqu'il n'aime pas ça, hein, Laurent, l'assistanat. Non, non, 2 500 000 personnes touchent le RSA en France. Il faut noter qu'il y a même beaucoup plus de gens qui ont droit, mais qui ne le savent pas forcément. Ça, c'est encore un problème d'information. D'ailleurs, la perception de la réalité tient beaucoup de comment on s'informe, hein, n'est-ce pas, madame ?
Si on veut trouver des chaînes objectives un tout petit peu, on se met sur BFM ou LCI. Voilà.
Pour vous, ça, c'est des chaînes objectives ?
Davantage.
Oui, oui, oui. Oui, hein, donc LCI qui appartient à Bouygues et BFM qui appartient à Alain Veil et Patrick Drahi. Voilà, on le sait, c'est les gens qui ont fait fortune sur l'objectivité. Essentiellement, c'est leur valeur refuge, l'objectivité. Et ça paye, enfin, ça paye, oui, ça paye, mais je veux dire, voilà, ça marche. Ça donne des gens très, très bien informés, donc comme cette dame.
D'après vous, quel est le pourcentage de la population musulmane en France ?
30%.
30%. C'est-à-dire 3 personnes sur 10 qui seraient...
Musulmanes ?
Ouais.
Au moins, oui, je parle.
Au moins ?
Oui.
Non, il y a 7%.
Ah, bon, bah alors, moi j'ai l'impression, je mets tout. Il y a pas mal de Marocains, de Tunisiens.
Oui, 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 dans la télé. Dans la télé, il y en a pas mal. Dans les reportages d'M6, par exemple, on est à plus de 106% de musulmans. C'est considérable. J'ai bien dit dans les reportages, hein, parce que pour le reste, les musulmans à la télé, on sait pas trop. Hein, c'est comme les femmes à l'Assemblée nationale, il y en a plein, mais elles font le café. Hein, donc voilà, ça compte pas forcément. Alors, il y a très précisément 7,5% de la population qui se dit musulmane, mais 30%, c'est vrai que c'est un chiffre qui revient souvent, notamment, par exemple, chez ce monsieur.
Je sais pas, 30%.
Comment vous êtes arrivé à ce chiffre ?
Je pense que là, on voit vraiment, hein, même si on va dans d'autres régions, Lille ou je sais pas quoi.
Et comment vous arrivez à voir la population musulmane ?
Ben, on voit quand même. Hein.
Sur le visage, ça se voit ?
Oui, oui, ça se voit. Hein.
Comment vous faites pour voir ?
Ben, ça se voit si on est arabe ou pas, hein, ou musulman. Normalement, quand on est arabe, on est musulman.
Et voilà, et on salue bien sûr tous les chrétiens d'Orient, les juifs séfarades, hein, qui sont priés de se rendre à la mosquée immédiatement, hein, pour ne pas fausser les comptes de ce monsieur, qui est en quelque sorte le Lévi-Strauss du RERB. Et puis surtout, on salue les arabes qui ne croient pas en Dieu, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'existe pas plus que le sex appeal de Robert Ménard ou l'humour de François Fillon. Allez, on continue dans la perception avec une autre question pour un autre champion français.
Combien la France a accueilli de réfugiés en 2016 ?
Je sais pas, 200 000, non ?
C'est moins.
Ah, c'est moins. Ah, ah ouais. Vous voyez, on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus. 100 000 ?
C'est moins.
Ah bon, c'est beaucoup moins ? Oh, ben, vous me rassurez.
Voilà, vous êtes inquiet ?
Ben, plutôt, ouais.
Eh ben, calme-toi. On va pas tout de suite être obligé de se laver au savon d'Alep. Hein, on va pouvoir rester bien crado, comme le veut la tradition bien française. Tradition, d'ailleurs, qui avant était aussi une tradition d'accueil, bien sûr. Hein. La preuve, j'ai rencontré un franco-portugais qui avait d'autres chiffres sur les réfugiés accueillis en France durant l'année.
900 ou 900 000, par là, je sais pas. Oui,
900 ?
900 000.
À 900 000 ?
Ouais.
900 000
900 000. Non, un peu plus que ça.
Alors attendez, 1000 ou 900 000 ?
Je dirais entre 2000 et 3000.
Ah oui, alors attendez, parce que là, c'est plus moins. Du tout 900 000.
Non, c'est moins.
C'est moins que 2000 ?
C'est plus.
Plus que 2000.
Ouais.
Mais moins que 900 000.
Ouais.
On a eu du mal à se comprendre.
Vous n'avez pas aidé là.
Non, mais parce que je ne comprenais pas. Bon, on est entre 2000 et 900 000. Et effectivement, on est bon. Effectivement, c'est ça. C'est comme quand on me demande mon QI, je dis toujours entre Morandini et Einstein. Comme ça, c'est bon. L'échelle est vaste. Alors, le chiffre, selon donc, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, c'est environ 30 000 hein, pour 2016. Pour un pays de 66 millions d'habitants, c'est pas l'invasion non plus. Hein, mais lui, il pensait que 30 000, c'était déjà beaucoup.
Moi, je pense que c'est beaucoup.
Parce que ça fait un réfugié par commune.
c'est pas énorme. Mais bon, mais
Ah, mais du coup, vous trouvez que c'est pas énorme ?
Non. Un par village, non. C'est pas énorme.
Vous voyez, comme quoi la perception peut changer.
Ouais, exact.
Et ben voilà, ça fait même moins d'un réfugié par commune en France. Donc voilà, tout dépend de la manière dont on présente les choses. Peut-être même on pourrait penser les problèmes en termes de sciences humaines. Moi je dis, pour sortir du chacun pour soi, Bourdieu pour tous.
Merci Guillaume Meurice. Et on poursuit la route avec Olivia Ruiz.
Ah, c'est une obligation. Je monte, j'embarque.
J'imagine. Vous savez, elle a beaucoup voyagé en Europe, Olivia Ruiz, et c'est le sujet qu'on a décidé de traiter avec elle. L'Europe un peu molle, hein, coincée entre Trump, Poutine, Xi Jinping. Eh ben, elle ne fait pas que de la chanson, elle réfléchit aussi, Olivia Ruiz.
Allez, géopolitique avec Olivia Ruiz.
Olivia Ruiz, qu'est-ce qu'elle?
Bien.
Tout va bien?
You stay, oui.
Muy bien. Alors, vous publiez, on dit publier, hein, oui, vous publiez. Alors, je suis
sortez,
une...
Sortez,
ah, attendez, attendez, vous sortez. Ouais. Je suis une brêle en musique, je suis nulle. Donc, je vais faire une interview de...
De brêle en musique.
Oui, d'amatrice d'Olivia Ruiz.
Mais c'est ça qui est bien en même temps. Pas mal de gens ne connaissent pas la musique et ont envie de la comprendre aussi.
Une interview André Manoukian,
qui parlera très bien de votre album tout à l'heure, À nos corps aimants. Moi, première question, parce que j'ai aussi fait une recherche de tous les derniers articles vous concernant votre album. Et la presse parle beaucoup plus finalement ces derniers temps de votre vie que de votre art. On dirait s'intéresse à votre personne. C'est pas un hasard, parce que c'est votre vie aussi qui vous inspire, c'est votre première source d'inspiration dans votre écriture, dans votre musique?
Alors oui et non, en fait, parce que par exemple, le premier extrait, Mon corps, mon amour, tout le monde me dit cette chanson qui parle de vous, mais on s'emmerderait sévèrement si je ne parlais que de moi. Ouais. Ma petite lessive, mon petit ménage et mes petites tournées qui sont une forme de routine. Donc non, je m'inspire de plein de gens. Peut-être en sortant d'ici, Charline, je vais écrire sur cette charmante chemise bleue aussi énergique que vous.
Et l'autre source aussi, c'est la littérature, sans doute, parce que vous êtes une dévoreuse de livres et vos émotions, quand je dis votre vie, c'est votre vie intérieure finalement, et la littérature c'est ce qui produit vos textes, parce que vous êtes aussi connue pour votre musique que vos textes.
Autant la littérature finalement que le cinéma, que je peux passer trois quarts d'heure devant une araignée géante de Louise Bourgeois et avoir une envie très forte d'écrire ensuite. Non, il n'y a pas vraiment de règles, ça peut être un paysage aussi quand j'arrive dans les Corbières ou le Minervois chez moi.
Donc il y a un côté impulsif dans votre processus créatif, d'impulsion, de voir quelque chose, de dire oh, parce que tout semble assez charnel et épidermique dans ce que vous faites.
Absolument.
Donc, c'est comme ça que ça marche.
C'est vraiment ça.
Elle me fait penser à vous savez ces films mythiques où on revoit des Mingway, des personnages comme ça, mais là on est plutôt dans Dali, dans le sud, dans Perpignan, dans cette Catalogne qui est d'une culture incroyable et dans ces passionnariats aussi qui faisaient la révolution en 1936.
Et qui nous a donné Manuel Valls. Merci la Catalogne.
Surtout que tu vas me foutre dans la panade, André.
Pourquoi?
Je suis pas catalane.
Je dis occitane.
Occitane.
Eh oui. Première erreur d'André Manoukian. Il
vous a déjà mis sur le bon continent. Hein.
Musicalement, on va en reparler avec André Manoukian, mais il y a toujours chez vous évidemment ce côté latino. Vous pouvez dire que j'ai tort. Hein.
On vous écoute, c'est
dansant, c'est en rondeur, c'est chaloupé. Il y a pas mal de cuivre, donc on peut dire que c'est latino et c'est aussi, vous faites chanter le corps et la tête, c'est ça aussi votre but?
Absolument, absolument. Il me semble hyper important, surtout quand on a un sujet hyper sombre, hyper lourd, de l'alléger avec la musique et au contraire de se dire on peut danser surtout. Quand Catherine Ringer fait Marcia Baila, on ne se doute pas du sujet terrible qu'elle aborde, entre autres celui du cancer et d'une femme qui est condamnée.
Parlons de votre art, Olivia Ruiz, de votre musique, avec André Manoukian.
Eh bien écoutez, on est raccord avec le sujet, puisque moi j'ai commencé avec un mot qui s'appelle l'identité. L'identité, c'est ce qui fait que je suis moi, distinct de tous les autres, et que je demeure le même à travers le temps. On a l'impression que la définition a été écrite pour Olivia Ruiz, tant on reconnaît sa voix en à peine un quart de seconde d'écoute. Un artiste, pour exister en musique, doit se trouver. Comment exister dans la multitude? Comment s'extraire de la foule anonyme? Comment se distinguer? Le fameux univers des candidats issus de la télé-réalité. Quand tu chantes, t'as un univers. Mais ta gueule, je peux le dire parce que je l'ai dit beaucoup celle-ci.
J'allais dire. Alors, mais on n'osait pas vous dire ta gueule.
Pour toutes les fois où tu ne l'as pas dit.
Mais voilà que non content d'être distinct des autres et de demeurer dans le temps, il faut être capable avec son chant de créer un monde. Mais on les prend pour Dieu, les chanteurs, ma parole. Alors évidemment, il est écrit dans le début de l'évangile de Saint Jean, au commencement était le verbe donc le son. Donc au commencement, il y a une vibration. Et ben ça tombe bien, ça on l'a prouvé en 1964. Deux astrophysiciens américains, j'adore la raconter celle-là, j'ai raconté plein de fois ici. Ils s'appellent Arnaud Penzias et Robert Wilson. Ils font le plus grand radar du monde pour, c'était le programme SETI qui recherchait des gens dans l'espace. Et là, ils repèrent un son. Mais un son, maintenant, c'est un buzz. Donc, ils se disent, merde, on a construit ce truc-là pour rien. Ils le démontent, ils le remontent. Bzz, il y a encore un buzz. Trois fois, il y avait des pigeons qui avaient fait des crottes. Ils nettoient, à rien à faire. Il y a toujours un buzz. Ils disent, on va le jeter à la poubelle. Et en fait, ils se rendent compte que ce buzz, eh ben, c'est le son fossile du Big Bang. Oui. Olivia, vous et moi, nous sommes reliés par le cosmos, par une vibration.
Je me demandais alors, où on allait atterrir avec ça.
Cosmos.
Toujours dans la drague.
Maintenant, on va parler de littérature, Clara, parce que la littérature, elle explique aussi pourquoi certains pianistes transpirent de la moustache quand ils entendent la voix d'Olivia Ruiz. Dune, le roman de science-fiction de Frank Herbert. Dans Dune, il est une confrérie, les sœurs du Bene Gesserit, dont Olivia Ruiz pourrait avoir créé l'ordre. Écoutez la définition de cet ordre. Cette organisation féminine et matriarcale et détentrice d'un pouvoir spirituel et religieux sans équivalent, les sœurs influencent et agissent dans l'ombre, leur arme, la voix ou la voix de commandement. Par l'utilisation d'harmoniques spéciales, elles peuvent influer directement sur les centres nerveux d'un être humain et obtenir son obéissance rapide à des ordres brefs. Mais c'est tout moi, ça, c'est tout moi. Voilà pourquoi je suis tétanisé des membres inférieurs quand la voix d'Olivia se développe dans l'air.
Calmez-vous, en vrai.
Je peux pas me calmer. En modulant subtilement sa voix, Olivia peut ordonner à un individu d'obéir. Vous savez comment ça se passe? J'ai fait un petit peu des recherches physiologiques. La voix naît dans le corps de la chanteuse, mais pas n'importe où. Dans le bas-ventre de la contraction du périnée, l'air s'élève dans la colonne d'air, passe du bas-ventre à la poitrine sur le chakra du cœur, que les hindous nomment Anahata. Là, il se polarise au choix. Amour,
il manque plus que de l'eau,
tristesse.
J'ai un bingo.
Sa couleur est le vert, sa note le fa et le son produit est yam, yam, yam. Puis les cordes vocales excitées créent une vibration qui va être reproduite par les molécules de l'air. L'air, le véhicule qui va porter la mélodie jusqu'au tympan de l'auditeur, tympan qui en vibrant à son tour va transformer cette sinusoïde en signal électrique qui atteint le cerveau qui à son tour transmet l'information dans les différentes parties du corps de celui qui écoute jusqu'à la moustache du compositeur qui se met à transpirer. Voilà, du périnée de la chanteuse à la moustache du compositeur, le périple astrophysique du chant, cette arme d'amour imparable de la confrérie des chanteuses dont Olivia Ruiz est une grande prêtresse désormais en place pour les siècles des siècles. Amen.
Mon corps s'endort, mon amour, j'appelle tes mains à leur parcours, mon corps se griffe, mon amour, sais-tu le risque qu'il encourt? Mon corps s'éteint, mon amour, il ne vaut rien sans ton secours, mon corps est atone, mon amour, et je sens poindre un non-retour. Mon corps s'affaiblit, mon amour, je fais appel à ta bravoure. Mon corps s'engourdit, mon amour, j'appelle tes sens en dernier recours. Pas un credo, plus que l'envie, je baise donc je suis. Ça réveille mon cœur quand il s'est assoupi. Je me fous qu'on me blâme, c'est ainsi que je mon âme. Quand l'un est soigné, l'autre retrouve la flamme. Mon corps expire, mon amour, tes yeux se ferment sur ses atours. Mon corps disparaît, mon amour, je suis fini sans ton concours. Mon corps s'affaiblit, mon amour, je fais appel à ta bravoure. Mon corps se meurt, mon amour, car face à lui, le tien reste sourd. Plus que l'envie, je baise donc je suis. Ça réveille mon cœur quand il s'est assoupi. Je me fous qu'on me blâme, c'est ainsi que je suis. Rien ne dissocie mes chairs et mon âme. Quand l'un est soigné, l'autre retrouve la flamme. Mon corps se console, mon amour, il reprend vie contre un autre velours. Mon corps me guérit, mon amour, j'aime quand il vibre sans détour. Sa vie me ranime, mon amour, je cours au dehors revoir le jour. Sa vie me ranime, mon amour, je cours au dehors revoir le jour. Mon corps s'endort, mon amour, j'appelle tes mains. Mon corps se griffe, mon âme.
Olivia Ruiz et sa voix reconnaissable entre 10 millions.
Ah oui, vous avez compris ma chronique,
Charline. Oui, Mon corps, mon amour, c'est un extrait du nouvel album À nos corps aimants. Vous êtes en tournée dans toute la France, et notamment Nantes, Rouen et Perpignan, et puis La Cigale, 21, 22, 23 février. Premier sujet avec vous, Olivia Ruiz. Voilà, Poutine finance les partis d'extrême droite européens pour affaiblir le continent. Trump est plutôt du côté du Brexit. C'est finalement Xi Jinping qui est le moins anti-européen des trois grands maîtres de l'univers. C'est dire si avec ces trois-là, l'Europe est dans la mouise, bande-annonce de l'Europe.
Ce sont les meilleurs mercenaires au monde. La seule vie qu'ils connaissent, c'est la guerre. La seule loyauté qu'ils partagent, c'est entre eux.
Lâchez vos armes!
Je prends les quatre à gauche. Concentre-toi sur les deux à droite et laisse-moi les autres.
C'est plus aussi rapide.
Ça y est, ça recommence.
Et qu'une chose plus rapide, c'est...
la lumière.
Exactement.
C'est ce qu'on verra.
Vous avez reconnu Trump, Poutine et Xi Jinping, étant Stallone, Jason Statham et Jet Li, évidemment. Alors, Olivia Ruiz, en tant qu'Européenne, voyant ce qui se, les changements, les bouleversements du monde en ce moment, est-ce que vous vous ressentez un peu cet étau entre le regard à l'Est avec Poutine, le regard à l'Ouest vers Trump? Vous êtes une Européenne de par vos origines, vos grands-parents
bien
espagnols,
sûr.
Etc. Qu'est-ce et que
évidemment,
vous...
la nouvelle de Trump a été un espèce de coup de massue. Alors tout de suite, le premier réflexe, c'est d'appeler tous nos potes américains et de dire on est tellement désolés. Et puis dans la seconde d'après, on
s'est dit...
C'est
à eux d'être désolés, c'est eux qu'on veut dire.
Nous aussi, on a sacrément chaud aux fesses.
Ah oui,
oui, c'est vrai.
Et effectivement, on a une chape de plomb et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et effectivement, on se sent un peu mou.
Oui,
c'est
ça.
Cette lutte
on se sent d'autant plus mou que les dirigeants européens, où la voix de l'Europe se fait peu entendre, même sur la Syrie, etc. Finalement, les dirigeants européens, ils ont passé des nuits entières à sauver des banques. Et on se demande s'ils n'ont pas passé de nuit vraiment à trouver des solutions pour les migrants, pour la Syrie. Les idéaux européens, vous croyez toujours en ces idéaux européens, et j'imagine en n'étant pas très pro-Trump.
Ouais, ça c'est sûr, ouais. Mais j'y crois et j'y crois pas. J'aimerais beaucoup garder un optimisme sans faille, mais non, les années prouvent que ce rêve-là n'est justement qu'un rêve ou qu'un fantasme. Le pays des droits de l'homme et des libertés et une terre d'accueil... qu'est-ce qui a concrètement prouvé ça depuis 15 ans, quoi.
Attendez, là, la France n'est pas non plus une dictature.
Absolument. Voilà, non, non, bien
attention,
sûr.
Attention, attention. Oui.
Non, bien sûr.
On n'a pas dit ça non plus.
Sauf qu'on on laisse quand même plein de gens mourir.
Alors, il y a une nouvelle grotte à Lascaux, une nouvelle fausse grotte, une reproduction à l'identique par des artistes scientifiques qui nous expliquent ici leur méthode.
Bien, bien. Joli, joli. Vous mettez du noir pour creuser. Creuse, toi, mon garçon, creuse. Creuse. Bien, bien le jaune, bien. C'est très bien. N'oubliez pas que les couleurs claires donnent du modelé à la courbe. Bien. C'est mou, là, c'est mou. Oui, oui, mais non. Bravo. Regardez comme le corps féminin peut devenir un formidable champ d'investigation pour l'art pictural. Très bien. Sale, nul.
Inspiré de Dali peut-être, mais c'est un extrait des Bronzés.
Ah,
oui, c'est le passage où il peint sur les nichons.
Bon, oui, bien sûr. Mais c'est ça, je reconnaissais pas vraiment Dali en même temps.
Non, non.
C'était
très,
très.
C'est inspiré du personnage, bien sûr.
On pense souvent les deux. Les Bronzés et Dali.
On n'y pense pas souvent. À partir d'aujourd'hui, donc, il y a une nouvelle réplique de la grotte de Lascaux qui est ouverte et qui permet au public de découvrir ses peintures rupestres. Alors, Olivia Ruiz, imaginons que vous puissiez visiter cette fausse grotte. C'est quand même curieux, c'est un fac-similé. Et je ne sais pas si on a les mêmes frissons, la même sensation que la vraie, qui est fermée très très tôt pour la préserver. Je ne sais pas, ça déclenche un sentiment ambivalent en vous, ou bien vous trouvez...
Ah non, pour avoir vu Lascaux 2, ou je ne sais pas
oui, Lascaux 2,
ça
tout à fait.
Quand j'étais gosse ou ado, j'avais été bouleversée. Puis de toute façon, enfin, soyons clairs, on ne va pas mettre en péril ce qui nous reste déjà de super abîmé dans le vrai Lascaux.
Ouais.
Juste pour s'en délecter. Il y a un moment, Ce qui est important, surtout, c'est d'essayer de préserver. Je crois que c'est dégueu, c'est plein de champignons. Enfin, ils ont eu vraiment...
Non, ça y est, justement, les champignons reculent maintenant, grâce au fait qu'elle est fermée.
C'est Malraux qui avait décidé de la fermer en 63.
Les taches s'en vont.
Olivia Ruiz, vous avez un souvenir ému de la découverte du premier facsimilé de la fausse grotte de la Chambre.
C'est tellement bien fait. Ouais. C'est des gens qui...
Et ça vous a aiguillé vers, je sais pas moi, vous vous êtes intéressé donc plus le fait de la voir. Alors, c'est une période qui...
Très franchement, je devais avoir 12 ou 13 ans et je suis très très vieille, donc je me souviens pas trop de l'impact que ça avait eu, mais je me souviens d'une belle émotion.
C'est le meilleur plaidoyer pour aller visiter ce nouveau facsimilé, donc de la grotte de Lascaux.
Oh, Charline, Olivia... permettez-moi juste, il y a de la lumière. Quelque chose qui n'existe pas dans Lascaux. Donc du coup, on voit encore mieux les couleurs et les dessins.
Il y a aussi les reliefs et l'hygrométrie, tout est à l'identique. Nous avons un sketch à vous proposer, Olivia Ruiz.
Un sketch de fin d'émission. Et vous allez jouer la conscience de Manuel Valls. Parce que ça, je pense que c'était un peu votre rêve. Manuel Valls, c'est Guillaume Meurice. Il se rend chez le psychologue parce que lui-même s'est réécouté ce matin sur France Inter. Ça l'a bouleversé. Le psychologue, c'est André Manoukian. Qu'est-ce qu'il s'est dit là-bas?
Vous croyez que c'est grave, docteur?
La bipolarité, c'est un vrai problème. Hein.
Mais c'est vraiment horrible, 49.3.
Qui le dites-vous?
À moi.
Manuel, faites plutôt appel à votre conscience.
Ma conscience?
Hola, Ketan.
Si, je l'entends, docteur, là.
Parlez-lui.
Madame la conscience, ça va mal, là. Il y a Valls Manuel qui s'oppose à Manuel Valls.
Caramba, Manuel, que passe?
Je dis tout le contraire de ce que j'ai fait quand j'étais Premier ministre.
De puta madre, c'est comme une corrida dans ta cabeza.
Ah oui, une corrida.
Cahiate, il faut que tu sois cohérent, Manuel.
Ça veut dire quoi, cohérent?
Ça veut dire une telenovela pourrie. Pour favor, regarde Montebourg, par exemple. Non, c'était par nos intonations. Regarde Montebourg, par exemple. Lui, il reste rationnel.
Mais non, il est nul.
Vous parlez de vous?
Non, de Montebourg. Il est absolument pas cohérent. Il vendrait du sable à des bédouins.
Aïe. Là, c'est carrément le torero qui se moque de la muleta.
Non, mais ne me dites pas que ma conscience aime Montebourg non plus, là.
Là, je sens que vous progressez.
Tu as vu, Manuel, quand il ne s'agit pas de toi, tu décèles l'incohérence.
Bon, allez, on passe à des questions simples. Vous répondez sans réfléchir.
Ça, tu vas y arriver.
Allez-y.
À la primaire de la gauche, vous allez faire 49% ou 3%?
C'est une provocation, là.
Non, tout n'est pas provocation.
Et si le Barça bat le PSG 49 buts à 3, vous faites rejouer le match?
Attendez, quoi, si vous me cherchez, vous allez me trouver là, hein, gros.
Calme-toi, fais appel à moi quand tu es nerveux.
Très bien, je lui dis quoi alors?
Que c'est un cabron de puta madre de toute la Galicia.
Vous êtes un cabron de puta madre de toute la Galicia.
Bon, allez, sortez d'ici, je ne peux plus vous voir.
Mais ma conscience, les gens me détestent encore plus quand je t'écoute.
Oui, mais ça vous a fait tellement de bien de lâcher ça.
Alex, quand c'est la fin de l'émission, on est un peu triste.
Oui.
Et pour nous consoler, tous les jours, il y a
Frédéric Fromest, extrêmement bien monté ses émissions de vacances. Et de quoi il va nous chanter aujourd'hui? Eh bien, les petits Français seraient nuls en mathématiques.
1, 2, 6, on a des grosses quiches. 4, 7, 12, des petites bouses. 5, 9, 3, fort comme Nabila. 8, 11, 20, et 6, 7, eh bien. Une petite brêle en calcul, en algèbre. Pareil en géométrie. Et si c'était un génie? Une graine de résistant contre les dirigeants qui veulent tout chiffrer, qui veulent tout compter, souvent afin de mieux nous diviser. 1, 2, 6, on n'est pas fortiche. 4, 7, 13, on est tous aux fraises. 5, 3, 9, futés comme des keufs. 8, 11, 20, et 6, 7, eh bien. Contre l'audimat, bras d'honneur au mat. Mieux vaut être mou du bulbe que compter ses vues YouTube. Le nombre de likes, truc de psychopathe. Il est inutile d'aller jusqu'à 1000, jusqu'à 3 c'est bon. On a rarement plus à l'Eurovision. Un 13 dos, on est des bolos. 10, 3, 7, on n'est pas des vedettes. 5, 9, 4, et ouais, on net art. 8, 11, 20, et 6, 7, eh bien. Vive les petites têtes, j'ai fait mon enquête. 100% des gros nullos pourront bosser chez Ipsos ou dans les manifs pour compter au pif. À quoi bon être surdoué si c'est pour porter des habits comme ceux de Cédric Villani? Il faut faire du chiffre, il faut qu'on s'empiffre. Un problème, on fait comment pour mesurer les sentiments? Le monde numérique n'est-il pas fait Eric? Plus de caisses, plus de guichets, des machines par milliers, les humains c'est démodé. 1, 6, 2, 1, on est bon à rien. 4, 7, 3, on est des gros bêta. 0 pointé, on est les derniers. 8, 11, 20, et 6, 7, est bien.
Merci Frédéric Frommet. Merci Alex pour cette heure passée avec vous.
J'aime passer ces heures avec vous, Charline Vanhoenacker.
Merci pour ce moment. Demain, on recevra un humoriste et un intellectuel.
Oui.
Farid et Raphaël Glucksmann.
Que des gens bien qui font avancer la France.
À demain.